Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Blaise Chindali Kambala.
République démocratique du Congo, 66 ans d'indépendance, entre défis et aspirations, souveraineté militaire, indépendance économique et engagement citoyen au cœur des débats. Béni, première guérison d'Ebola, un message d'espoir. Le centre provisoire de traitement enregistre son premier succès et appelle la population à faire confiance aux équipes de riposte. Mondial 2026, la RDC face à l'Angleterre après un exploit historique. Les Léopards qualifiés pour le deuxième tour, leurs prestations analysées dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal Parler du matin. Ouvrons ce journal par le message du chef de l'État. À l'occasion du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé à la nation. Dans son discours, diffusé sur la télévision nationale, il a rendu hommage aux pères de l'indépendance ainsi qu'aux martyrs qui ont payé de leur vie pour offrir au pays sa souveraineté. Écoutons à présent un extrait choisi par Vanessa Kongolo.
Le 30 juin n'est donc pas une simple date de notre calendrier républicain. Il est à la fois une mémoire, une promesse et une responsabilité. Il est la mémoire de celles et ceux qui, par leur courage et leur sacrifice, ont ouvert le chemin de notre liberté. Pour eux, l'unité, la dignité et la souveraineté du peuple congolais avaient plus de valeur que leur propre vie. Il est aussi la promesse faite à chaque génération de ne jamais renoncer à l'idéal d'un Congo libre, uni et souverain. Il est enfin une responsabilité, celle de protéger, d'approfondir et d'incarner chaque jour l'indépendance conquise par nos pères dans nos institutions, notre économie, notre diplomatie, notre défense nationale et notre engagement collectif au service de la République. En ce jour de communion nationale, je m'incline avec respect devant la mémoire de nos pères de l'indépendance, de nos héros nationaux, de nos martyrs et de tous les combattants de la liberté, connus ou anonymes, qui ont fait de ce pays une patrie libre. Je rends un hommage particulier à Joseph Kasavubu, à Patrice Emery Lumumba, ainsi qu'à tous les bâtisseurs de notre conscience nationale.
À l'occasion justement du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Radio Kapi a donné la parole à ses auditeurs. Dans le magazine Parole aux auditeurs, chacun a dressé son propre bilan de ces 66 années de souveraineté. Les avis sont partagés. Pour certains, la priorité reste la souveraineté militaire. Pour d'autres, c'est l'indépendance économique, le changement des mentalités ou encore une vision à long terme du développement du pays. Écoutons à présent un extrait proposé par Jocelyne Moussaoponde.
Il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance militaire. Un État qui ne peut pas se défendre n'est pas un État.
Il faut d'abord introvertir notre économie. Dès lors que nous aurons l'indépendance économique, là maintenant, nous pouvons penser à d'autres secteurs.
66 ans après, on exporte toujours les cuivres bruits et on importe même les cure-dents.
En dehors de tous ces arguments avancés, il y a aussi l'indépendance mentale. Quand, par exemple, les citoyens n'ont pas de notion de patriotisme, pas de notion de civisme, aucun sens de l'État, aucun sens de la dignité des autres, qu'est-ce qui marcherait?
Aujourd'hui, 66 ans, nous sommes en train toujours de boster, nous sommes en train toujours de passer certaines étapes. J'ose croire, dans la mesure du possible, ça va toujours se métamorphoser. Même après 10 générations, ça va toujours changer.
Nous avons perdu 66 ans à subir au lieu de planifier. Comment on rattrape le temps perdu?
On doit travailler sur nous-mêmes pour permettre quand même à notre pays d'évoluer. On ne va pas continuer comme ça. Quand tout le monde voit rouge, il y a ceux qui voient noir. Et les gens s'en félicitent.
À Bénin, les jeunes ont pris la parole en prélude au 66e anniversaire de l'indépendance. Lors d'une journée de réflexion organisée dimanche, ils ont dressé un constat sévère. Notre pays est à genoux sur tous les plans. Il est prématuré de parler d'une indépendance pleinement effective au regard de nombreux défis qui restent à relever. Pour eux, la génération actuelle doit s'impliquer davantage afin de relever ces défis et contribuer au développement du pays. Écoutons Enoch Siaikomia, l'un des participants au micro de Marc Marofimbo.
ces pays ici départ de l'extérieur sur le point de vue économique. Ce pays n'est pas également indépendant parce qu'il y a la présence de UPDF, un secteur aussi important que la sécurité, est mis entre les mains des étrangers qui nous sécurisent jour et nuit avec cet accord Suja. Ce pays n'est pas également indépendant, d'autant plus que notre politique est discutée à Washington et à Doha pour récupérer une partie de la province du Nord Kivu et une partie du Sud Kivu. Notre pays est à genoux et on ne devrait pas parler de l'indépendance aussi, alors que la ville de Goma ne fait plus partie intégrante du point de vue géologique et politique de la RDC. Au lieu de parler de l'indépendance, on devrait un peu réfléchir sur comment amener l'indépendance dans son effectivité, parce que ça demeure un chantier. Il y a plusieurs problèmes à relever pour arriver à ce qu'on va appeler indépendance dans l'avenir. Et je pense que notre génération, ça sera cette génération qui va amener ces pays vers cet objectif-là.
Un appel fort à la prise de conscience collective a été lancé lors de cette journée de réflexion. La jeunesse de Beni dit vouloir être un acteur clé pour bâtir une indépendance réelle fondée sur la responsabilité et l'engagement collectif. Dans le cadre du 66e anniversaire de l'indépendance de la RDC, une étude du consortium Congo n'est pas à vendre met en lumière de profondes inégalités. Malgré l'augmentation du budget de l'État ces dernières années, le paradoxe social congolais demeure. Plus de 70% de la population vit encore avec moins de $2.15 par jour. Ce constat alarmant a été présenté ce lundi lors d'un point de presse organisé simultanément à Kisangani et Kinshasa par la coalition d'ONG. Les détails avec Jacques Moukonkole.
C'est un tableau sombre mais réaliste de la gouvernance budgétaire en République démocratique du Congo. Menée tout au cours des années 2020-2025, l'enquête de la coalition Le Congo n'est pas à vendre, mais annule les profonds déséquilibres qui rongent la fonction publique. Pendant qu'une minorité capte l'essentiel des ressources, la majorité des agents de l'État peinent à nouer les débouts. Une injustice qui asphyxie l'économie et fragilise le tissu social, comme le précise l'un de ses membres, Lambert Bakonda.
Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des grèves partout. Le travail où les agents pouvaient fournir des travaux de qualité, où on pouvait avoir une performance pour avoir un développement, malheureusement, ces agents-là ne sont pas capables de donner un travail à la hauteur parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Nous voyons d'autres bureaux qui n'ont pas de tables, qui n'ont pas de meubles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de moyens.
Face à ce fossé qui se creuse, le CNPAV ne se contente pas de dénoncer. L'organisation formule une série de recommandations urgentes à l'endroit du gouvernement. Parmi les pistes prioritaires, la réduction drastique du train de vie des institutions politique et une répartition enfin équitable du revenu national. En clair, l'ONG appelle à une véritable justice distributive pour que les hausses budgétaires se traduisent enfin dans l'assiette du Congolais moyen. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio 4.
Vous l'avez entendu dans ce journal, le consortium Congo n'est pas à vendre a présenté ce lundi 29 juin son dernier rapport sur les inégalités salariales dans la fonction publique. Lors d'un point de presse organisé simultanément à Kisangani et Kinshasa, son coordonnateur Dirk Charka a dénoncé un fléau qui alimente la corruption et les paiements indus. Il recommande le versement des salaires décents afin de permettre aux parents de mieux prendre en charge leur famille. Écoutons Dirk Charka au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Le manque de transparence entretenu sur les rémunérations démontre qu'il y a des fortes inégalités dans les répartitions des revenus publics entre les fonctionnaires de l'État dans les institutions publiques, gouvernementales et les services publics. Ce qui ouvre la porte aux rémunérations indues, aux tendances à l'auto-rémunération ou alors à la corruption, mais aussi entraîne de graves impacts sur l'incapacité des services publics à rendre service aux citoyens. Mais aussi sur le plan social, la précarité, le manque de dignité dans la vie de certains agents publics qui n'ont pas accès aux ressources. On connaît aussi la misère dans laquelle la plupart des agents qui n'ont pas accès à ces ressources, qui ne peuvent pas avoir accès aux ressources publiques, vivent. Et donc notre plaidoyer, c'est de pouvoir effectivement changer cette situation. Faire que le gouvernement prenne en main la question des inégalités salariales et des disparités et d'y travailler de manière conséquente afin que l'agent public puisse être payé de manière conséquente, de manière à assurer la dignité minimale pour qu'il vive de manière décente.
À Kinshasa, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont manifesté ce lundi 29 juin. Rassemblés devant les ministères du budget et des finances, ils ont organisé un sit-in pour réclamer leur intégration à la paye régulière, l'allocation des ressources nécessaires et le respect de leur grille barémique. Déterminés à poursuivre leur combat jusqu'à obtenir gain de cause, ils ont exprimé leur mécontentement au centre financier de la capitale. Écoutons Bénédiction Migo, l'un des manifestants, dans ses propos recueillis par Daniela Awa Izuba.
L'État, à un certain moment, en 2023, avait initié une réforme de l'instruction générale du travail. Il avait commencé par recruter une nouvelle personne parce qu'il y avait un personnel vieillissant. Aujourd'hui, nous totalisons maintenant 3 ans, jour pour jour, depuis que nous étions recrutés en 2023. On nous a soumis à un mode de paiement qui ne respecte pas d'abord les barèmes qui étaient préalablement fixés, un traitement de 30% seulement du barème et qui intervient 5 à 5 mois, 6 mois et 4 mois. Et donc nous, à notre niveau, on s'est dit ce traitement inhumain, injuste, ça ne nous honore pas. Nous sommes un service qui est au cœur social de nos compatriotes. On ne saura pas travailler dans des conditions pareilles. Nous avons organisé tant de démarches, tant de sit-ins pour seulement recouvrer ces droits qui est jusqu'à présent bafoués.
Bouclons cette page du 66e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo par cet appel du parti d'opposition Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo Nogec. Cette formation politique invite chaque Congolais à devenir un artisan de la paix et du développement, condition indispensable pour mettre fin au cycle des violences qui persistent, notamment dans l'est du pays. Le Nogec exhorte également les citoyens à s'inspirer de l'exemple des héros nationaux qui ont privilégié la lutte pacifique. Suivons tout dans ce reportage d'Isaac Remoyope.
Dans un communiqué publié à l'occasion de la fête de l'indépendance, les partis politiques Nouvelle Génération pour l'émergence du Congo estiment que le rêve de bâtir un Congo uni, prospère et pacifique doit demeurer une source de fierté pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Selon cette formation politique, chaque citoyen est appelé à contribuer individuellement et collectivement à la construction du pays en s'impliquant dans la recherche de solutions durables aux conflits qui secouent l'est de la RDC. Le Nogec lance un appel aux jeunes et a rejoint les différents groupes armés, notamment l'AFC M23, la CRP, la CODECO et les ADEF, afin qu'ils déposent les armes. Les partis rappellent que la violence ne constitue pas une solution au problème du pays. Il invite ces jeunes à suivre l'exemple des figures politiques telles qu'Étienne Tshisekedi, qui, selon les communiqués, a mené son combat pour la démocratie par des moyens pacifiques. Afin, les Nogec exhortent le gouvernement à respecter la Constitution et les lois de la République. Les partis lui demandent de veiller à ce que les textes fondamentaux ne soient pas utilisés comme des instruments politiques pour restreindre les libertés ou réduire au silence les voix dissidentes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Capi.
C'est une lueur d'espoir dans la riposte contre la maladie à virus Ebola à Beni au Nord Kivu. Le centre provisoire de traitement installé à l'hôpital général de référence de Beni a enregistré ce lundi son tout premier cas de guérison. Selon le médecin directeur de cette structure sanitaire, cette évolution positive démontre l'efficacité de la prise en charge de malades lorsque les patients arrivent à temps dans les structures de traitement. Il encourage ainsi la population à faire confiance aux équipes de riposte en insistant sur le fait que la maladie peut être guérie si elle est prise en charge précocement. Cette première guérison est également un message fort adressé à la communauté, souvent confrontée à la peur et à la méfiance face au centre de traitement. On écoute la satisfaction de la patiente guérie d'Ebola, la vingtaine révolue, au micro de Marc Marofimbo.
Je suis très ému de joie. Je suis arrivé ici malade, mais aujourd'hui je suis guéri. Je remercie sincèrement le personnel soignant pour l'encadrement dont j'ai bénéficié. Je viens du quartier Rwangoma et j'avais d'abord été pris en charge au centre de santé de Malepe et Kaliva. Mon message à la population est simple. Lorsqu'on se rend tôt dans une structure de soins, les chances de guérison sont très élevées.
À ce jour, 11 zones de santé sur les 34 que compte la province du Nord Kivu sont touchées par cette maladie avec plus d'une centaine de cas enregistrés et 2 décès. En Ituri, la situation reste préoccupante au site des déplacés de Kingons à Bunia. Ces derniers jours, plusieurs décès y ont été enregistrés. Depuis samedi, 8 personnes ont perdu la vie. Certaines directement sur les sites, d'autres dans des structures sanitaires ou encore dans des centres de traitement d'Ebola. Les gestionnaires du site s'inquiètent de ne pas recevoir les résultats des analyses effectuées sur les personnes décédées, une absence d'information qui complique la mise en œuvre de mesures de prévention. Reportage signé Isaac Remoyope.
Selon les responsables du site de Kigonze, deux personnes déplacées sont décédées lundi, l'une sert le site et l'autre au centre de traitement d'Ebola Eliki Abunya. Dimanche, trois autres décès ont été enregistrés, dont celui d'une personne transférée dans une structure sanitaire avant de succomber. Samedi, trois nouveaux décès avaient déjà été signalés, parmi lesquels un patient admis au centre de traitement du centre médical évangélique Le Sémé. Les gestionnaires du site indiquent toutefois qu'ils ne reçoivent pas systématiquement les résultats des analyses réalisées sur les personnes décédées. Selon eux, ces informations sont pourtant essentielles pour adapter les mesures de prévention et rassurer la population. Face à cette situation, les équipes de riposte renforcent les activités de sensibilisation afin de lutter contre la résistance de certains déplacés qui continuent de négliger les mesures barrières ou de manipuler le corps des personnes décédées. Des relais communautaires sont également formés pour sensibiliser les habitants au respect des mesures de prévention et des procédures d'inhumation sécurisée. Par ailleurs, plusieurs points de lavage des mains ont été installés sur le site. Malgré ces efforts, les responsables estiment que les dispositifs de prévention restent insuffisants au regard de la taille du site de Kigonze, qui accueille plus de 17 000 personnes déplacées, en majorité des femmes et des enfants. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Actualité internationale.
L'Afrique du Sud se prépare à une journée sous haute tension ce mardi 30 juin, date butoir fixée en dehors de tout cadre légal par plusieurs organisations anti-immigration aux immigrés sans papiers pour qu'ils quittent le pays. Alors que cette vague xénophobe qui touche l'Afrique du Sud a déjà fait 4 morts et 25 000 déplacés ces dernières semaines selon les autorités, ces dernières craignent de nouveaux débordements à l'occasion de nombreux rassemblements.
L'invité.
Mondial 2026, les Léopards se sont qualifiés pour le deuxième tour de la compétition dimanche dernier en battant l'Ouzbékistan 3-1 à Atlanta aux États-Unis. Les Léopards joueront leur match du deuxième tour du Mondial le mercredi 1er juillet contre l'Angleterre. Les intervenants dans l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi ont analysé la prestation de la RDC à ce stade de cette compétition. On les écoute au micro de Guimaté Tsongo.
André-Michel Essungu, vous êtes ancien journaliste et fonctionnaire international. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, dont un sur l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations et cofondateur d'un incubateur qui se consacre au sport en Afrique centrale. Quelle lecture vous faites de la victoire de la RDC face à l'Ouzbékistan, tout en indiquant, n'est-ce pas, qu'il s'agit de la toute première victoire de l'histoire de la RDC dans une telle compétition?
D'abord, on en est... est heureux. D'autre part, c'est une victoire largement méritée. Certes, la RDC a commencé le match de manière difficile, mais la RDC a pris l'habitude de commencer des matchs de manière parfois difficile, y compris en qualification face au Sénégal à domicile. Mais elle nous a aussi montré, cette RDC, sa capacité à revenir dans des matchs ou à tenir le match. Donc, en réalité, la RDC était favorite de ce match et peut-être que des fois, être favori vous joue un tour, et c'est ce qui a pu lui arriver, surtout lorsqu'elle a concédé le but. Simplement, elle a démontré qu'elle avait suffisamment de qualité de son côté, bien meilleure que l'Ouzbékistan après tout. Et la victoire est au fond logique lorsqu'on voit ce que l'équipe a été capable de démontrer. Je pense que sur le terrain, la RDC a démontré à chacun de ses matchs qu'elle ne craignait aucun de ses adversaires, qu'elle pouvait rivaliser avec chacun, n'oubliant quand même pas le match nul imposé au Portugal dès le départ. Donc la victoire, en réalité, était, à mon sens, contre l'Ouzbékistan, logique. Elle est bienvenue. Lorsqu'on dit que la RDC n'a pas gagné depuis 52 ans, ça paraît si lointain et ça paraît en réalité juste, donc on est content pour elle.
Merci Delphine Kikouni, vous êtes ancien vice-président de la Lina Foot, vous êtes analyste sportif. Comment vous expliquez-vous également cette performance des Léopards lors de ces matchs contre l'équipe d'Ouzbékistan?
Une meilleure performance. Je crois que à un certain moment, j'ai cru à ce qui est arrivé. Je respecte l'attitude du coach et moi, c'est mon point de vue également, qu'on a eu le sens de la mesure, mais finalement, on a découvert qu'on avait notre destin. Et le destin, c'était de gagner ce match-là, je l'avais dit. On devrait gagner un match, on l'a fait. On est maintenant rassuré et c'est à ce moment-là qu'on commence à se poser des questions. Et moi, je crois que même en se posant des questions, on doit réunir les deux. On n'a pas la tête haute parce que il y a l'adversaire qui est en face de nous, mais on s'est dit également qu'il ne faut pas fuir les dangers. Il faut y aller. Parce que si on le fuit maintenant, il va nous rattraper. Donc c'est maintenant, je salue même, qu'on affronte en début comme ça, des grandes équipes comme on l'a fait contre le Portugal, contre la Colombie, et maintenant là c'est l'Angleterre. Donc on a devant nous à aller devant l'obstacle, à affronter l'obstacle, parce que l'obstacle il existe à ce stade de cette compétition, partout ce sont des grands. Tout ce qu'on va rencontrer maintenant, ce sont des grands, et il faut y aller, c'est ce qu'on est en train de faire.
Pierre-Célestin Kabala-Monambouyi, vous êtes analyste sportif et président de l'Association des journalistes sportifs du Congo. S'il vous est demandé de prodiguer des conseils aux joueurs congolais, qu'est-ce que vous leur diriez, surtout en ce qui concerne l'intensité qu'on a manifestée devant l'équipe ouzbèque? Est-ce qu'on peut maintenir la même intensité et pourquoi pas augmenter davantage la pression contre les Anglais et de cette manière-là espérer marquer des buts?
Je peux dire simplement qu'il faut avoir le sens et la mesure. Il y a les consignes de l'entraîneur, mais il y a aussi l'observation des joueurs eux-mêmes sur le terrain. Il faut qu'il y ait un meneur de jeu qui regarde la température, qui observe les forces de frappe et les faiblesses de l'adversaire pour dire aux autres, mes amis, nous accélérons, nous allons à fond. Je voudrais également dire à tous les spectateurs, c'est que les Anglais ont l'habitude de tirer à distance. Ils exploitent les espaces. Quitte à ce que notre défense puisse bien couvrir le gardien de but et n'est pas l'empêcher d'avoir une bonne visibilité en cas d'action offensive de l'adversaire. Les dispositifs tels qu'il a été appliqué dans les matchs contre l'Ouzbékistan est bon. Peut-être qu'il faut commencer par Bakambu cette fois-ci avant de nous ramener à cette activité verticale de nos attaquants en préservant Wissa.
Vous pouvez continuer à suivre l'émission Dialogue entre Congolais sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net. Voilà qui met fin à ce journal parlé du matin. Coordonné et supervisé par Jude Mystère Bilan Dankoumar et mis en onde par Dieudonné Nyangassa Wanyangassa.